Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir Nathalie Barge pour vous présenter cette édition du 10 octobre 2018. 8 soldats et 48 djihadistes ont été tués lors d'affrontements près du lac Tchad, selon l'armée tchadienne. Élection au Cameroun, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, appelle à la plus grande retenue. Au Kenya, au moins 51 personnes ont perdu la vie dans un accident d'autocar. Le président américain dit avoir parlé au plus haut niveau avec les Saoudiens dans l'affaire du journaliste disparu en Turquie. Et États-Unis, l'ouragan Michael a commencé à atteindre les côtes de Floride où l'état d'urgence a été déclaré. La Minute Éco, les sports, ce sera juste après le journal. Affrontement aujourd'hui entre l'armée tchadienne et les djihadistes dans la région du lac Tchad. 8 soldats et 48 djihadistes ont été tués. Eric Manira Kidza nous en dit plus.
Les djihadistes de Boko Haram ont attaqué très tôt ce matin la position des militaires tchadiens dans la localité de Kaiga Kinji. D'après le porte-parole de l'armée en N'Djamena, le colonel Azem, 8 militaires sont morts et 11 ont été blessés, tandis que 48 terroristes ont été tués. Début octobre, Boko Haram a visé au mortier un camp militaire à Litri, près de la frontière avec le Nigeria, tuant un militaire tchadien. Fin septembre, 6 personnes, dont 2 militaires, ont été tuées dans une attaque sur les rives tchadiennes du lac Tchad. L'armée avait annoncé avoir tué 17 djihadistes. Depuis plusieurs semaines, l'armée nigériane a aussi intensifié ses opérations dans la région du lac Tchad, avec des frappes aériennes contre le groupe djihadiste. Boko Haram opère dans tous les pays au bord du lac Tchad en commettant des attentats meurtriers, des attaques contre les forces de l'ordre et procède à des enlèvements. L'insurrection islamiste et sa répression a fait au moins 27 000 morts et provoqué une grave crise humanitaire avec près de 2 millions de déplacés.
Au Cameroun, Maurice Kamto, qui s'est déclaré président élu lundi, revient à la charge. Ce mardi, son porte-parole a annoncé l'ouverture d'une enquête publique au sujet de faux observateurs électoraux qui auraient été présentés comme des observateurs de Transparency International. La correspondance de notre correspondant donc à Yaoundé, Jules-Emmanuel Ntap.
Lors d'une conférence de presse, le porte-parole de Maurice Kamto, Olivier Bissouk-Nissak, a demandé l'ouverture urgente d'une enquête pour identifier les faux mandataires de Transparency International. Lundi, 6 personnes d'origine occidentale avaient été présentées à la CRTV, la télévision d'État, comme étant des observateurs envoyés par l'Organisation de lutte contre la corruption. Transparency a démenti mardi avoir envoyé les observateurs au Cameroun. Par ailleurs, le porte-parole de Maurice Kamto a indiqué que des soulèvements et actes de violence sont en préparation pour être mis au compte de leurs champions. Il a aussi rassuré que la sécurité de Maurice Kamto n'est pas pour le moment menacée. Yaoundé, Emmanuel Jelouta, VOA Afrique.
Et nous reviendrons sur la situation au Cameroun dans les dossiers d'actualité. Au moins 51 personnes ont été tuées ce matin dans un accident d'autocar dans l'ouest du Kenya. L'autocar était parti de Nairobi pour Kakamega et transportait 52 passagers. Salwa Jafari nous en dit plus.
Sur le site de l'accident, un bus rouge qui ne ressemble plus à rien. Les bagages des passagers sont éparpillés et le toit gît à plusieurs mètres du véhicule. James Nouguera, commandant de la police, inspecte les lieux.
Selon le premier rapport que nous avons reçu, le conducteur a perdu le contrôle du véhicule et a dévalé la falaise. Nous avons perdu plusieurs vies. Nous avons pu compter 50 personnes tuées, 31 hommes, 12 femmes et 7 enfants.
Le président Uhuru Kenyatta a déclaré que les autorités enquêtaient sur ce qu'il a appelé un incident catastrophique. Les statistiques officielles font état d'environ 3 000 morts par an sur les routes du Kenya. Mais selon l'Organisation mondiale de la santé, ce nombre serait supérieur à 12 000.
Le Niger a autorisé une société chinoise à lancer des prospections d'uranium dans le nord du pays, selon un communiqué de la présidence. Approuvé mardi en Conseil des ministres, deux conventions minières doivent permettre à la société Zijing et Shuang de mener des recherches d'uranium et de substances connexes, avec deux permis à Tiroverine dans la région désertique d'Agadez. L'ex-femme de l'ancien président libérien Charles Taylor, Agnès Reeves Taylor, a plaidé non coupable d'accusations de torture durant la guerre civile au Libéria lors de sa comparution ce mercredi devant une cour criminelle de Londres. Elle est également soupçonnée d'avoir encouragé le Front National Patriotique du Libéria à recourir au viol. Ancien maître de conférence à l'université anglaise de Coventry, Madame Taylor est en détention provisoire à Bronzefield. Elle a comparu par vidéoconférence à la cour criminelle de l'Old Bailey. Son procès pourrait s'ouvrir en janvier. En Libye, une fosse commune contenant 75 cadavres a été découverte près de Sirte, a annoncé le conseil municipal, disant qu'il s'agirait de corps de djihadistes. Il y a quelques jours, un habitant aurait informé les autorités sur un charnier à Al-Dair, a indiqué Mohamed Al-Amial, porte-parole du conseil municipal de Sirte. Les forces de sécurité se sont rendues sur place et ont retiré les cadavres décomposés en présence du procureur public de la force chargée de sécuriser Sirte et du Croissant Rouge, a-t-il précisé.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Avec des vents de 220 km/h, l'ouragan Michael, décrit comme extrêmement dangereux, a commencé à atteindre les côtes de Floride où l'état d'urgence a été déclaré. Des dizaines de milliers d'habitants ont été appelés à évacuer. Nani Talani nous en dit plus.
L'ouragan Michael se dirige à une vitesse de 220 km/h vers la Floride dans le sud-est des États-Unis. Il est potentiellement catastrophique, ont averti les météorologues américains. Ils ont précisé que l'eau se trouvait à 80 km de Panama City en première ligne. Tallahassee, capitale de la Floride, est devenue une ville fantôme. Le gouverneur républicain de Floride, Rick Scott, s'est dit très inquiet pour les personnes qui ont décidé de ne pas partir. Quelques 375 000 personnes dans plus de 20 comtés de la Floride ont reçu l'ordre ou ont été incitées à évacuer. Michael sera la plus puissante tempête en plus de 100 ans dans certaines régions, ont prévenu les services d'urgence de l'État. Nous sommes très bien préparés, a assuré hier le président Donald Trump. Il a approuvé mardi l'état d'urgence dans 35 comtés de Floride. Les États voisins d'Alabama et de Géorgie devraient également être affectés. L'État de Caroline du Nord, affecté à la mi-septembre par l'ouragan Florence, a été placé en alerte.
Un convoi de troupes britanniques est arrivé aux Pays-Bas en route pour le plus grand exercice de l'OTAN depuis la fin de la guerre froide. Un contingent de 150 soldats à bord de 71 véhicules militaires venus d'Angleterre a débarqué d'un ferry près de Rotterdam. Ces soldats, ils vont donc effectuer un voyage à travers le nord de l'Europe dans le cadre de l'exercice Trident Juncture, conçu pour montrer à la Russie que l'Alliance est prête à repousser toute attaque. Des éléments accréditant la thèse de la disparition forcée ou de l'assassinat d'un journaliste saoudien à Istanbul par des agents de son pays ont été révélés par les médias turcs alors que sa fiancée demande l'aide de Donald Trump. Le président américain a déclaré ce mercredi avoir parlé au plus haut niveau avec les Saoudiens. Des télévisions turques ont diffusé des images de vidéosurveillance montrant l'entrée au consulat saoudien de Jamal Khashoggi et de l'équipe soupçonnée d'être responsable de sa disparition. Le journaliste, qui écrivait notamment pour le Washington Post, s'est rendu au consulat le 2 octobre sur rendez-vous pour des démarches administratives. Selon la police turque, il n'en est jamais ressorti, mais Riyad affirme le contraire. La réintégration économique des anciens combattants des FARC en Colombie reste une grave préoccupation, a déclaré au Conseil de sécurité le chef de la mission de vérification de l'accord de paix de 2016, Jean Arnaud. La majorité des personnes n'a toujours pas de perspective économique au-delà de l'allocation mensuelle devant s'achever en août 2019, a-t-il précisé. En vertu de l'accord, 7000 anciens combattants ont déposé les armes en échange de la promesse d'être réintégrés dans la société. Le Parlement tunisien a voté une loi criminalisant la discrimination raciale. La loi prévoit des peines d'un mois à un an de prison et jusqu'à 1000 dinars d'amende pour des propos racistes. L'incitation à la haine, les menaces racistes, la diffusion et l'apologie du racisme sont passibles de 1 à 3 ans de prison et jusqu'à 3000 dinars d'amende. Nous y reviendrons dans le dossier, les dossiers d'actualité. Et sachez qu'une Marocaine de 17 ans accusant les hommes de son village de viol collectif a maintenu ses accusations ce mercredi devant le juge d'instruction malgré les insultes et menaces de ses détenus. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nani Talani.
L'Angola pourrait réduire son déficit budgétaire à 1% d'ici à la fin de l'année, selon José de Lima Massano, gouverneur de la Banque centrale angolaise. Cette performance, qui représente une baisse par rapport aux 7% de déficit budgétaire enregistré à la fin 2017, devrait être stimulée par le plan de stabilisation macroéconomique mis en place par le président João Lourenço. Le fardeau de la dette est de plus en plus important, 64% du PIB en 2017. L'État envisageait néanmoins de recourir aux marchés obligataires afin de financer ses projets de développement dans un contexte de diminution de ses réserves en dollars. La Banque mondiale va investir 594 millions de dollars en faveur de l'éducation en Tanzanie. Ce financement s'ajoute aux 25 projets de l'institution de Bretton Woods dans le pays. Totalisant près de 3,95 milliards de dollars, ces projets sont essentiellement destinés à améliorer le secteur du transport en Tanzanie. Et pour terminer, en Libye, 9% du combustible vendu dans les stations-service est passé par les réseaux de contrebande, selon un rapport de la police italienne qui lutte contre la contrebande d'essence. Depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011, les milices armées volent le pétrole brut et l'exportent en Italie par l'intermédiaire de Malte. Cela constitue un important manque à gagner pour la Libye, car ces 9% d'essence issus de la contrebande auraient pu aider à améliorer les recettes publiques de ce pays.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Nouvelle journée de qualification pour la CAN 2019.
Oui, l'Éthiopie et le Kenya ont fait match nul, 0-0 à Bahir Dar dans le groupe F. Et dans le groupe K, la victoire de la Zambie à Lusaka 2-1 contre la Guinée-Bissau. Une victoire précieuse pour revenir sur les talons du leader Bissau-Guinéen dans ce groupe K.
La double confrontation Sierra Leone-Ghana est annulée.
Les deux matchs prévus demain et dimanche dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 ont été annulés. Annonce de la Confédération africaine de football, en cause une dispute entre Freetown et la FIFA qui a suspendu la Fédération Sierra Leonaise de football la semaine dernière pour ingérence gouvernementale. Pour l'heure, la CAF n'a pas précisé si ce forfait entraînait la disqualification complète des Lion Stars, ni si le Ghana allait récupérer les 6 points sur tapis vert. On rappelle que dans ces éliminatoires de la CAN 2019, les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés. Cette prochaine CAN doit, en principe, se dérouler au Cameroun du 15 juin au 13 juillet l'année prochaine.
La Libye n'a plus de sélectionneur.
Alors qu'ils sont opposés au Nigeria samedi et mardi dans le cadre de ces éliminatoires de la CAN 2019, les joueurs libyens viennent de perdre leur sélectionneur Adel Amrouche. En plein stage de préparation en Tunisie, le technicien algérien a claqué la porte et démissionné. La raison, plusieurs mois de salaire non versé. Son intérim devrait être assuré par son adjoint Omar Al-Marmi lors de ces deux matchs.
Et demain, la Ligue des Nations reprend ses droits en Europe.
et notamment la sélection du Portugal qui a été surtout animée par les déboires extrasportifs de Cristiano Ronaldo. Eh bien, les Portugais, comme en septembre contre l'Italie, ne pourront compter sur Cristiano Ronaldo, les Portugais qui affrontent la Pologne. Idem avec la Russie, la Zbornaïa sur la lancée de sa belle Coupe du Monde avait réussi de beaux débuts en Ligue des Nations en allant s'imposer 2-1 en Turquie, mais on parle beaucoup plus là-bas des écarts d'Alexander Kokorin et de Pavel Maev. En tout cas, la Russie accueille à Kaliningrad la Suède. À Haïfa, Israël reçoit l'Écosse, la Serbie en déplacement chez le Monténégro, la Roumanie ira en Lituanie, les îles Féroé accueillent l'Azerbaïdjan et le Kosovo face à Malte.
Merci beaucoup Nicolas pour cette page sportive. Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers du jour. Au moins 180 000 ressortissants de la République démocratique du Congo en situation irrégulière en Angola sont rentrés dans leur pays depuis le début d'une opération d'expulsion lancée par Luanda contre les clandestins. Plusieurs d'entre eux ont été tués en marge de cette opération. Eddy Isango a joint à Tshikapa, dans la province du Kasaï, le coordonnateur de la Ligue nationale paysanne des droits de l'homme, Albert Fouamba.
Je suis juste à l'entrée de la ville de Tshikapa. Je vois les chasseurs de l'Angola qui viennent. Ils font presque 150 km à pied, des femmes, des enfants, des hommes, dans les conditions tout à fait des personnes fatiguées, humiliées.
Qu'est-ce qu'ils disent des opérations qui sont menées là-bas pour les évacuer, pour les chasser?
À la sortie là, ils avaient des tracasseries policières. Des fois, on pouvait fouiller dans leurs biens, mais vu leur nombre, cette tracasserie-là a diminué puisqu'il n'y a pas moyen de les contrôler. Malgré ça, les services de l'État essaient un peu de voir par quels moyens ils peuvent être dirigés pour que chacun récupère sa famille.
Mais on parle des morts et même parmi eux des Congolais.
Ils nous parlent des morts de la ville de Lukapa, de certaines personnes qui ont été tuées, forcées pour sortir et tuées. Là, nous n'avons pas tellement le bilan.
Les commissaires de la police angolais parlent d'au moins 180 000 Congolais qui auraient été chassés. Est-ce qu'en arrivant au Congo, ces personnes sont-elles prises en charge par les autorités?
Jusque-là, il n'y a aucune autorité en place ou une organisation non gouvernementale qui a pris en charge ceux qui sont en train d'entrer. Des fois, certaines viennent sans quelque chose entre leurs mains. Vous savez, il y a un délai qui les a été donné de sortir librement avec leurs biens. Et vu que ce délai est en train d'expirer, alors certaines sont chassées pour chasser, laissant leurs biens de l'autre côté de l'Angola.
Certains d'entre eux viennent d'autres coins de la RDC, mais quand ils sont rapatriés ou chassés par les Kasaï, comment vont-ils rejoindre leur famille?
Ça semble être un peu une équation à ce niveau-là, puisque vous savez, ici au Congo, les moyens de transport sont compliqués, il n'y a pas de route pour la circulation facile, alors c'est tout à fait difficile. Si quelqu'un de Kavemba, du côté de Bandundu, peut se retrouver sorti du Kasaï, celui du Kasaï se retrouve sorti du côté de Bandundu.
Il y a chaque année des rencontres comme ça après qu'on ait expulsé le Congolais, mais la situation ne change pas.
Ça vient chaque année, chaque moment. À l'heure qu'il est, il semble que tous les expatriés qui étaient en Angola, que ce soit les Blancs, les Noirs, les Sénégalais, les Ivoiriens, sont chassés de cette façon-là, tous ensemble.
C'était Albert Fouamba, coordonnateur de la Ligue nationale paysanne des droits de l'homme à Tshikapa, en République démocratique du Congo.
VOA Afrique à Lubumbashi sur 102.8 FM.
On revient sur l'élection présidentielle au Cameroun, où la compilation des votes de la présidentielle donc a débuté environ 48 heures après le scrutin de dimanche. À l'issue de cette étape, la Commission générale de recensement des votes va transmettre les résultats à la Cour constitutionnelle pour publication. En attendant, les Camerounais sont partagés sur la victoire revendiquée lundi par l'opposant Maurice Kamto. Notre envoyé spécial Bagassi Koura a tendu le micro à des passants à Yaoundé.
La sortie lundi de Maurice Kamto, qui s'est déclaré vainqueur de la présidentielle, est toujours largement commentée dans les rues de la capitale. Les Camerounais sont divisés sur la question. C'est une immaturité politique, estime le septuagénaire Frédéric Tchalanga.
Majesté Tchalanga, moi j'ai fait politique étant enfant. Jusqu'à maintenant, c'est pas comme ça que ça se passe.
Pour Tchalanga, Maurice Kamto est un amateur qui est sous l'effet de la folie des grandeurs.
Il n'a pas appris politique, c'est l'argent qui lui rend fou pour faire tout ce qu'il fait.
Certains prêtent aussi des intentions aux candidats du MRC, à l'instar de ce fonctionnaire qui a requis l'anonymat.
Il n'y aura pas ce qu'il veut faire, l'insurrection, il n'y aura pas ça au Cameroun. Nous les jeunes fonctionnaires, comme il n'y aura pas cela au Cameroun.
Mais il y a aussi ceux qui comprennent les propos tenus lundi par Maurice Kamto, un spécialiste du droit qui inspire confiance selon eux.
Le professeur Maurice Kamto, c'est un grand homme et je pense que ça, il ne parle pas au hasard parce que c'est lui-même qui a écrit le code électoral. Donc je pense que c'est les mots qu'il a prononcés sont des mots qu'il maîtrise lui-même très bien.
Moi, je pense qu'au-delà des vacances, des autres adversaires politiques, il sait bien de quoi il est question et je pense que ses déclarations sont tellement nuancées et métaphoriques et il sait ce qu'il fait.
Atangana Ona Dominique, militant de première heure du Parti nationaliste l'Union des populations du Cameroun, estime que la polémique actuelle reflète en réalité l'échec des leaders de l'opposition.
Les opposants, on leur a demandé de faire une coalition pour trouver un candidat charismatique qui peut se présenter contre le président du parti au pouvoir, mais ils n'ont pas voulu. Mais maintenant, s'auto-proclamer comme candidat. Comme candidat élu avant la déclaration des résultats. Ce n'est pas une bonne chose, c'est une façon d'amener le Cameroun dans le chaos.
En attendant la publication officielle des résultats de la présidentielle par la Cour constitutionnelle au plus tard le 22 octobre, la plupart des Camerounais veulent que la course au pouvoir n'aboutisse pas à une querelle politique prolongée. Bagassi Koura, Yaoundé pour VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi, plein feu sur l'élection présidentielle de dimanche dernier au Cameroun. Le pays est dans l'attente des résultats, mais l'un des candidats de l'opposition, Maurice Kamto, a d'ores et déjà revendiqué la victoire face au président sortant Paul Biya. Cette proclamation jugée prématurée pourrait-elle donner lieu à une crise post-électorale dans ce pays déjà confronté aux troubles dans les régions anglophones? Nous attendons vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Au Burkina Faso, la société civile se solidarise pour soutenir les forces de défense et de sécurité en proie à des vagues d'attaques terroristes. Une initiative citoyenne de soutien au FDS a organisé ce matin une course populaire prélude à une série d'activités à venir. Les détails avec notre correspondant à Ouagadougou, Issa Napon.
Suite aux multiples attaques terroristes qui frappent et endeuillent le Burkina Faso, la France jeune de la société civile ne veut pas être en reste. Des initiatives qui naissent ça et là pour galvaniser et remonter le moral des troupes durement touchées ces derniers mois, explique Issouf Zungrana, coordonnateur de l'initiative citoyenne de soutien aux forces de défense et de sécurité.
L'objectif de cette initiative citoyenne-là, c'est de mener des actions citoyennes en vue de soutenir, de motiver et de galvaniser les forces de défense et de sécurité qui, nuit et jour, défendre notre pays, nuit et jour, contribue à la protection de notre nation. Et au-delà de ça, passer des messages à l'endroit de la population et tous les acteurs du système sécuritaire et de défense de notre pays pour que, ensemble, main dans la main, on puisse œuvrer à lutter contre ces attaques.
Battre le pavé pour remonter le moral des troupes est l'élément moteur qui explique leur présence, témoignent quelques manifestants.
Soutenir la FDS, c'est en quelque sorte une manière de faire progresser le pays. Donc c'est pourquoi nous devons les soutenir de telle sorte qu'ils avancent.
On est là ce soir juste pour soutenir les forces de sécurité qui font un bon boulot dans le pays. Voilà. Juste pour leur dire qu'on est derrière eux et on les soutient.
Les citoyens sont ainsi invités à prendre part aux diverses activités lancées à travers la procession, détaille le coordinateur Issouf Zunkrana.
Il y a déjà la procession de ce jour. Nous avons décidé de lancer ce message fort-là pour que ces forces-là sachent que le peuple du Burkina Faso se trouve derrière elles. La semaine qui vient, on va organiser des activités sportives. On a dénommé ça les 8 kills civils FDS. Il y a également des activités de don de sang que nous avons demandé. Sur le combat, vous savez que souvent il y a des besoins en don de sang. Donc avec la Direction Générale du Centre National de Transfusion Sanguine, nous sommes en train de déployer un programme. Il y a des activités de plaidoyer que nous allons mener. Tous les acteurs qui sont importants dans le dispositif seront rencontrés. Et pour terminer, nous allons lancer une collecte de fonds pour le Fonds de solidarité des forces de défense et de sécurité.
Venez aussi leur témoigner de leur soutien. La coordination de l'association ivoirienne Côte d'Ivoire Solidarité était particulièrement active sur le terrain. Leur présence était nécessaire, explique leur représentant Aruna Traoré.
Vous savez qu'aujourd'hui, au Burkina Faso, il y a 3 000 Ivoiriens. Et la Côte d'Ivoire se trouve à la frontière du Burkina Faso. C'est des façons lâches qu'ils attaquent les FDS. Donc, on ne peut pas savoir par où. Mais nous, en tout cas, de notre côté, en tant qu'Ivoiriens, nous allons faire de sorte que ça ne passe pas par nous. Voilà. Donc, c'est aussi notre manière de soutenir les FDS.
Depuis le début de l'année, les attaques terroristes ont progressé du Sahel au nord pour s'étendre au centre et en fait à l'est du pays et faire une quarantaine de morts et de nombreux blessés au sein des FDS et des civils. Des forces de sécurité sans doute ragaillardies par ce soutien tous azimuts. Issa Napon Ouagadougou, VOA Afrique.
Bonsoir à tous, c'est Kiabadou en votre compagnie et je vous donne rendez-vous à 18h en temps universel dans votre émission interactive À votre avis. Le futur chef du gouvernement irakien a lancé mardi un site internet permettant aux Irakiens de postuler en ligne pour devenir ministre. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Souhaiteriez-vous qu'il y ait de tels appels de postes ministériels dans votre pays? Laissez vos numéros et commentaires ou appelez en direct à 18h en temps universel au 001 202 205 26 33. Je répète 001 202 205 26 33.
Le Parlement tunisien a voté une loi criminalisant les propos racistes, l'incitation à la haine et les discriminations. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, le pays comprend une minorité noire estimée entre 12 et 15% de la population et reçoit beaucoup d'étudiants venus d'Afrique subsaharienne. Pour une analyse, Abdourahmane Dia a joint à Tunis le journaliste Mourad Selami.
Dans cette loi, l'objectif, dans la mesure que dans la société, il y a de la discrimination. C'est vrai que ce n'est pas une discrimination très apparente, mais lorsqu'on constate, par exemple, que l'équipe gouvernementale ne comprend pas des personnes de peau noire, par exemple, lorsqu'on constate que les femmes dans le gouvernement ne constituent que 3 ou 4 sur 40, on comprend parfaitement que la loi est censée faire la locomotive dans une société pour pousser à l'avant vers la fin de la discrimination.
Et justement, c'est une loi qui était attendue de longue date. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a favorisé son adoption en 2018?
Je ne pense pas qu'il y a vraiment une conjoncture spéciale qui a poussé à ce que cette loi soit votée aujourd'hui. Non, c'est plutôt le travail en lui-même de l'Assemblée des représentants du peuple qui est très lent durant cette législature. Il y a presque 50 ou 60 projets de loi qui attendent encore de dépasser devant l'Assemblée.
En Tunisie, les minorités, notamment les Noirs, étaient victimes de discrimination. Quelle est l'ampleur de ce phénomène?
Pour être honnête, oui, elles sont victimes de discrimination si l'on voit leur ascension sociale, leur ascension professionnelle. Par exemple, en Tunisie, Le mariage mixte blanc-noir est un phénomène vraiment rare. C'est-à-dire que sur l'ensemble des couples tunisiens, il n'y a même pas 2% de couples mixtes qui n'est pas en Tunisie. Le gouverneur sur les 26 gouverneurs tunisiens de gouverneurs noirs, Pourtant, la population noire en Tunisie est de l'ordre de 10 ou 11%.
Beaucoup d'étudiants venant d'Afrique subsaharienne se plaignent sur les réseaux sociaux de la manière dont ils sont traités en Tunisie. Est-ce que c'est une réalité et qu'est-ce que le gouvernement tunisien fait?
Cela ne vient pas du fait qu'ils soient noirs. Cela vient du fait qu'ils soient étrangers. Mais le phénomène est circonscrit. Le phénomène n'est pas très large.
C'était le journaliste tunisien Mourad Selami. Et c'est la fin de cette édition. À la mise en onde, c'était Michel Joseph. À la présentation, Nathalie Barge. On reste en contact et rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité en continu. Très bonne soirée à l'écoute de l'actualité avec Henri Francisque.